pour compléter ce que Mgr Cyril vient de dire sur ce contexte dans lequel la doctrine sociale est née, mais cette fois-ci avec un regard extérieur, celui d'un prêtre de l'Église catholique, nous invitons maintenant le Père Hyacinthe, directeur du Centre d'études Stina, d'exposer de son côté la spécificité et le contexte de la doctrine sociale orthodoxe de l'Église russe.
Éminence, Excellence, je voudrais d'abord vous remercier pour votre invitation, en particulier le Père Michel Fédou. Je me réjouis tout particulièrement de cette coopération jésuite-dominicaine. Je voudrais, en introduction à cette petite intervention, dire que dans son encyclique Deus Caritas Est, le pape Benoît XVI dit que la doctrine sociale est un acte de charité, un acte de charité politique. La charité de la vérité, caritas veritatis. Et je crois profondément que cette publication d'une doctrine sociale de l'Église russe est également un acte de charité de l'Église russe qui nous permet aujourd'hui de nous retrouver pour discuter et je l'espère permettra à l'avenir de faire des propositions pour un témoignage commun des chrétiens. Dans cette intervention, je voudrais rappeler donc, le contexte et quelques traits caractéristiques des fondements de la doctrine sociale de l'Église orthodoxe russe, notamment concernant les relations entre l'Église et l'État. C'est un préjugé répandu que l'Église orthodoxe ne s'intéresserait pas à la traduction du christianisme dans la vie sociale. Selon ce préjugé tenace, notamment en Occident, l'idéal de symphonie des pouvoirs, prétendument entretenu par l'Église orthodoxe, conduirait celle-ci à remettre entièrement à l'État le destin social de l'humanité. En ce qui concerne l'Église orthodoxe russe, il est vrai que lors de la période synodale, au XVIIIe et XIXe siècle, l'État transforma l'Église en une simple administration, cantonnée en grande partie à la vie cultuelle. Et pourtant, de par le passé, l'Église russe joua un rôle considérable dans l'édification de la société moscovite. Il suffit de penser au rôle joué par les monastères, comme ceux de Sergueï Passat, qui organisèrent l'espace social russe. Mieux, l'Église orthodoxe russe contribua au XIXe siècle à l'élaboration d'une véritable pensée sociale chrétienne autour de la notion de sobor, que l'on traduit par conciliarité ou catholicité ou collégialité. Une sobornost pour équilibrer les prémices de l'individualisme, comme l'explique un penseur comme Kowalskoy. La personne est indissociable de la communauté, telle est l'intuition de ces slavophiles du XIXe siècle. Mais l'on peut dire que c'est la nécessité de répondre aux diverses théories matérialistes qui conduisit l'Église russe à élaborer au XXe siècle une véritable doctrine sociale. Dès la fin du XIXe siècle, les succès des diverses doctrines marxistes, matérialistes dans la société russe obligeaient l'Église orthodoxe à introduire dans les séminaires et les académies de théologie des cours présentant la conception orthodoxe de l'économie, des rapports de classe, des forces de production. L'intérêt de la pensée russe pour les questions morales et éthiques, augmenté par la nécessité de répondre à ces théories matérialistes, conduisir l'Église russe à élaborer dès le début du XXe siècle les prémices d'une doctrine sociale. À l'époque soviétique, un des représentants éminents de ce courant fut le métropolite Nicodème, convaincu du besoin de répondre au matérialisme par une doctrine sociale mettant en valeur la dimension avant tout spirituelle et conciliaire de la nature humaine créée à l'image de Dieu. l'expérience tragique de l'Église russe, de persécution au nom d'une idéologie matérialiste, donnait à celle-ci, selon le métropolite Nicodème, une vocation, une mission particulière de témoignage en faveur d'une véritable doctrine sociale. Mais bien sûr, le contexte politique de l'époque rendait impossible l'élaboration et l'expression d'une telle intuition. C'est donc, comme l'a rappelé le métropolite, le subit changement de contexte politique en 1991 qui permit à l'Église russe d'engager un processus d'élaboration d'une véritable doctrine de l'Église concernant les questions sociales et politiques. L'enjeu était double, à la fois permettre une systématisation des diverses positions exprimées par l'Église orthodoxe en vue d'un meilleur témoignage, et d'autre part, offrir un lieu de dialogue avec les autres traditions religieuses, et notamment avec les autres chrétiens. En décembre 1994, le Concile épiscopal de l'Église russe exprima la nécessité d'élaborer un document général qui présenterait de façon systématique les positions de l'Église russe sur les questions concernant les divers problèmes de la société contemporaine. Le Saint-Synode fut chargé de constituer un groupe de travail. 26 personnes furent désignées, des évêques, des clercs, des professeurs de théologie, divers collaborateurs laïcs du Saint-Synode. De janvier 1997 à janvier 2000, plus de 30 sessions de travail ont abouti à la rédaction d'un premier projet qui fut soumis à une discussion lors d'un colloque théologique intitulé « La théologie orthodoxe russe au seuil du troisième millénaire » en février 2000. Puis en juin 2000, dans le cadre d'un colloque rassemblant des membres de l'Académie des sciences de Russie et des représentants des milieux politiques, le texte fut à nouveau soumis à la discussion. Enfin, une dernière version du document fut soumise au Saint-Synode le 19 juillet 2000, puis au Concile épiscopal jubilaire, qui l'adopta avec quelques amendements le 15 août 2000. Sur la forme, on peut dire que ce document est historique. Jamais une Église orthodoxe n'avait formulé de façon aussi solennelle, par la forme d'un concile, et systématique, sous la forme d'un compendium, des positions sur un aussi vaste champ de questions sociales, politiques et économiques. On dit souvent, c'est un autre préjugé, que l'Église orthodoxe n'a pas de magistère. Il est vrai qu'il n'existe pas de magistère au sens catholique, sans doute, mais néanmoins, on peut dire que ce texte est un texte magistériel exprimant la position officielle de l'Église orthodoxe, dans un sens finalement très proche de celui où les catholiques entendent le magistère. Sur le fond, ce texte, par le champ de questions traitées, est cependant plus ambitieux que la doctrine sociale de l'Église catholique. Les 16 chapitres qui le forment parlent des relations entre Église et nation, entre Église et État, du droit civil, de la politique, du travail et de ses fruits, de la propriété, de la guerre et de la paix, de la criminalité, de l'éthique familiale, de la santé des personnes et des populations, de la bioéthique, des questions d'environnement, de la science, de la culture et de l'éducation, des médias, des relations internationales. Il n'est bien sûr pas question ici de résumer les enseignements de ce document. On peut dire qu'il s'agit d'une réflexion de nature ecclésiologique. Et ce n'est d'ailleurs pas pour rien si le premier chapitre de ce fondement porte précisément sur la nature et la mission de l'Église dans le monde. Cette dimension ecclésiologique de la doctrine sociale de l'Église russe apparaît également dans le traitement des questions relatives aux relations entre Église et État, et c'est sur cet aspect que je voudrais maintenant particulièrement m'arrêter. C'est, me semble-t-il, dans ce domaine des relations entre Église et État que l'Église orthodoxe russe marque un tournant historique dans ce document. Nous avons tous en tête tête l'image utilisée par Dostoïevski dans les frères Karamazov, où l'on explique que l'idéal catholique serait de transformer l'Église en État, tandis que l'orthodoxie viserait, au contraire, à transformer l'État en Église. Mais en parcourant les fondements de la doctrine sociale de l'Église orthodoxe russe, le lecteur occidental est d'abord surpris de constater, contrairement à certaines idées reçues, que le document porte un regard relativement pessimiste sur l'État. Pour les fondements de la doctrine sociale, l'État résulte avant tout du péché. Je cite, « La nécessité de l'État ne découle pas directement de la volonté de Dieu sur Adam, mais des conséquences de la chute et de la nécessité de limiter le pouvoir du péché dans le monde », explique le document. Ce pessimisme contraste d'une certaine façon avec l'idéal byzantin de la symphonie des pouvoirs avec laquelle l'Église russe prend ses distances. Il se distingue également de la tradition latine, d'une certaine façon, de la tradition latine conçoit l'État comme une société parfaite, cetas perfectas, c'est-à-dire, selon la définition de saint Thomas d'Aquin, une société qui dispose en elle-même de tous les moyens d'atteindre sa fin. Ces deux conceptions, byzantine et latine, reposent en effet sur une certaine confiance à l'égard de l'institution étatique. La relative défiance des fondements de la doctrine sociale à l'égard de l'État s'explique évidemment par l'expérience historique douloureuse de l'Église russe dans ses relations avec le pouvoir séculier depuis le XVIIIe siècle, et tout particulièrement au XXe siècle. D'un certain point de vue, mais comparaison n'est pas raison, ce pessimisme n'est pas sans rappeler certains accents de la théorie luthérienne des deux royaumes, le Feierreich Lehre, où l'on explique que l'État est finalement la main gauche de Dieu à l'égard de laquelle il faut se méfier. Quel est donc le principe des relations entre l'Église et l'État prôné par les fondements de la doctrine sociale de l'Église orthodoxe russe? Le texte ne parle pas directement de séparation, mais de principe de non-ingérence. Cette non-ingérence est liée à une profonde différence de nature entre l'Église et l'État, même si leurs intérêts peuvent coïncider. Cette non-ingérence est le principe d'une laïcité, définie non pas comme une éviction de la religion, de la sphère publique, mais comme le partage de sphères de compétences entre l'Église et le pouvoir séculier, non-ingérence dans les affaires l'un de l'autre. Ainsi, l'Église ne doit pas se charger des fonctions propres de l'État, et l'État ne doit pas intervenir dans les affaires de l'Église. Cette non-ingérence n'empêche pas cependant des contacts entre Église et État. Le témoignage de l'Église comme caritas veritatis, notamment dans la doctrine sociale, premièrement, et deuxièmement, l'engagement des laïcs comme charité politique. Premièrement, selon les fondements de la doctrine sociale, si l'État s'appuie avant tout sur la force matérielle, l'Église dispose d'abord d'un moyen spirituel, le témoignage. L'Église, je cite, ne peut taire ou cesser de prêcher la vérité, quelles que soient les doctrines auxquelles adhère ou que diffusent les instances politiques. En rappelant que cette liberté a bien souvent entraîné l'Église russe à subir la persécution. Ce témoignage à la vérité se fait d'abord précisément par la doctrine sociale de l'Église, qui, je cite, donne la possibilité aux personnes extérieures à l'Église, à la société civile, d'avoir une notion claire de ce que pense l'Église au sujet des problèmes contemporains. Il est frappant de lire dans l'encyclique Deus Caritas Est, la première encyclique du pape Benoît XVI, une formule presque identique présentant la doctrine sociale comme un acte de charité de l'Église. L'enseignement de l'Église en matière sociale est non pas une intrusion de l'Église dans la société ou dans les affaires publiques ou dans le gouvernement politique, mais un acte de charité de l'Église à l'égard de l'homme et de la société. Le témoignage, d'autre part, peut également s'exprimer, et c'est sans doute la déclaration la plus forte de ce texte, par la désobéissance civile, à laquelle l'Église peut appeler les chrétiens. Soulignons que cette revendication du droit à la désobéissance civile, en cas où des lois étatiques violeraient la conscience des chrétiens, est historique. C'est la première fois qu'une Église orthodoxe impose le principe d'une façon aussi solennelle et précise au nom de la liberté de conscience. Notons d'ailleurs que ce même concile de 2000 qui a adopté les fondements de la doctrine sociale a canonisé un exemple type de désobéissance civile en la personne du métropolite Arsène de Rostov, qui, au XVIIIe siècle, s'était opposé à la nationalisation des terres monastiques décidée par Catherine II. Un deuxième point de contact entre le domaine de la charité et celui de la politique, c'est l'engagement des laïcs dans la vie publique. Si l'Église ne peut pas intervenir directement dans la sphère politique, elle peut donc par la doctrine sociale et d'autre part par l'engagement des laïcs. Cet engagement, dit le document, apparaît comme l'une des formes de la mission de l'Église dans la société. Pie XI enseignait déjà que le domaine de la politique, c'est le domaine de la plus vaste charité, de la charité politique, caritas politica. Dans Deus Caritas Est, le pape Benoît XVI reprend cette idée. Le laïc chrétien engagé dans la vie politique peut et doit se faire saint, non pas malgré son activité politique, mais en vivant la charité du Christ dans cet engagement. J'ai mentionné des ressemblances frappantes entre l'enseignement récent de l'Église catholique et celui de l'Église russe sur la conception des relations entre Église et État, Église et vie politique. Il existe cependant des différences d'accent, et elles sont peut-être encore plus intéressantes. J'en mentionnerai un en ce qui concerne le principe de subsidiarité. Selon ce principe, cher à la tradition canonique catholique, c'est une erreur morale, un défaut de charité, que de laisser faire par un niveau social trop élevé ce qui peut être fait par le niveau social inférieur, car on priverait ce dernier de tout ce qu'il peut faire. La doctrine sociale de l'Église orthodoxe russe ne parle pas de subsidiarité qui découle du droit canonique latin, mais peut-être trouvons-nous l'équivalent de cette subsidiarité dans le principe orthodoxe russe de la sobornost, qui articule les charismes de chacun en vue du bien commun. Nous avons là un exemple possible de l'échange de dons entre catholiques et orthodoxes, dont parle souvent le cardinal Casper. Échange de dons dans la perspective de remplacer l'écuménisme des consensus dont son éminence du métropolite nous a rappelé les limites et les difficultés actuelles. Remplacer donc cet écuménisme des consensus ou des convergences par un écuménisme réceptif où chacun s'enrichit des dons de l'autre. Souhaitons en conclusion que ce document historique à bien des égards, tant par sa forme que par son fond, ouvre la voie, non pas tant peut-être à une doctrine sociale unifiée, ce serait dommage de faire des différences d'approche et d'accent de chacune des traditions, mais effectivement à une doctrine sociale commune des chrétiens, un témoignage commun des chrétiens dans ce monde que Dieu aime, comme le dit avec grande justesse la déclaration des fondements de la doctrine sociale de l'Église, et je termine par cette citation. Le mépris manichéen envers la vie du monde environnant est inacceptable. La participation du chrétien à cette vie doit se fonder sur la conviction que le monde, la société, l'État sont objets de l'amour de Dieu parce qu'ils sont destinés à la transfiguration et à la purification selon l'amour même de Dieu. Merci de votre attention.